à l'épisode 34 de la French Connection. Cette semaine, je suis avec Vincent.
Salut tout le monde!
Dans un petit enregistrement intime chez moi. Nous allons commencer avec les Shameless Plug. 13 avril, le CQSC qui aura lieu au Terminal de Croisière. Allez voir plein de conférences super intéressantes, super de choses. Nous risquons même de faire un épisode spécial spécifiquement pour le CQSC avec des interviews avec les différents conférenciers. 17 avril, Isaac au Québec avec la place de la gestion des risques TI au sein de la gestion des risques organisationnels. 17 avril, Paris, le bar Gandhi de En Vrai, qui va être là, tel que Damien nous avait présenté dans différents épisodes, dans lequel je peux pas faire un énoncé aussi intéressant que le sien. Le 26 avril, Québec Sec, anonymat et vie privée sur Internet. 25 juin, Hacking in Paris. Et le 30 juin, la nuit du hack, qui est aussi à Paris. Donc, nous allons commencer avec les nouvelles pour cette semaine. Les militaires cherchent à augmenter leur capacité d'embauche des cybertalents, puisque, ou en ce cas, les cybertalents en sécurité du moins, dans lesquels ils sont majoritairement en grand manque, comme on a vu aussi avec l'effet en France, où ils cherchent à embaucher un nombre extraordinaire de talents en sécurité. Il va y avoir une forte pression, une difficulté à réussir. Dans le contexte spécifique de l'armée américaine, ben, les autres vivent avec des contraintes d'embauche qui sont un peu plus difficiles. Et Vincent, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu trouves les cyber-talents ou les cyber-talents en cyber-sécurité?
Ben, moi, je suis pas contre l'idée. Est-ce que j'imagine qu'on en a déjà dans nos rangs militaires, mais cette nouvelle-là, si c'est sorti, c'est parce que ça doit être rendu public. Ils doivent être un petit peu désespérés. Je nous trouve en retard, je vais t'avouer. Si je pense au pays un petit peu plus dictateur où ils en font une vocation depuis des dizaines d'années déjà. Je pense qu'il était temps que... Je dis pas qu'on n'avait pas de talent ici. Notre intérêt était complètement différent. On est une zone pacifique au Canada.
Tu parles de vocation. Ce qu'on a justement ici, on n'a pas eu de vocation musulmane militaire au niveau de la cybersécurité.
Non, mais de savoir, même si on est plus ou moins la cible sur ce qu'on sait, là, pas ce qu'on sait pas, contrairement aux Américains, aux Japonais, en Israël, etc., de savoir qu'il y a justement des États qui financent des cyberpirates, puis qu'on a toujours l'impression que c'est une branche militaire d'un pays ennemi qui fait ça. Les militaires ont, je dirais pas des fonds extraordinaires ou du sans-fonds pour financer ça, mais les militaires ont accès à énormément de ressources et des moyens des fois plus orthodoxes. Je pense qu'il y a le temps qu'on utilise ces moyens-là pour avoir une forme de défense.
Ouais, qu'on rehausse notre capacité par rapport à, si on se compare à d'autres pays qui investissent de façon massive là-dedans. C'est sûr que c'est facile de cibler la Russie ou la Corée du Nord, même la Chine, en mettant des pays qui investissent énormément, mais en termes de pays occidentaux, c'est intéressant qu'on...
Petite parenthèse humoristique, j'ai hâte de savoir que ça ne sera pas Kaspersky qui va nous informer prochainement qu'on a subi une forme d'attaque, mais que c'est plutôt notre branche militaire qui dit « Bon, là on a compris, on l'a décelé, ça s'est fait ici, on l'a détecté, on va rehausser notre niveau ». C'est un petit rêve là, que pour lequel j'ai hâte de voir de lire dans les nouvelles puis de voir à la télévision qu'on est pas une menace mais qu'on a une forme de protection locale.
Mais j'adore tout ce que tu dis parce que ultimement ce serait plus intéressant qu'on ait des informations sur l'état de la situation en sécurité par nos services de renseignement et militaires locaux, nationaux. Versus par des compagnies commerciales. C'est que McAfee, Kaspersky ou Trend Micro viennent nous informer sur où se passe la menace versus à ce que les services de renseignement de nos pays, chacun individuel, viennent nous briefer en tant que citoyens. Ce genre de choses-là, effectivement, est un peu... C'est vrai que c'est malaisant.
Ben oui, puis ça va...
C'est très malaisant.
Puis un élément bénéfique à ça, c'est notre niveau de confiance. On va, je dis pas que j'ai pas confiance en nos infrastructures, mais j'ai moins confiance en nos infrastructures qu'un pays qui est extrêmement bien équipé militairement. Pour moi, là, un vieux sage m'a déjà dit, la meilleure défense, c'est l'attaque. Hein? Alors, s'il vous plaît, j'ai hâte de savoir que lorsqu'on va avoir la POC, on va gonner dans le goal sans se poser trop de questions. Là.
Ouais, tout à fait. En ce sens-là, je sais qu'au Hackfest, ben, il y a eu certains représentants qui ont présenté des recherches, des éléments de recherche qu'ils ont fait. Ce qui est, à mon sens, un premier pas en tant que nouveau Canadien à la diffusion d'informations plus restreinte. En même temps, je sais que de leur représentation qu'ils font au niveau du gouvernement canadien est peut-être un peu démesurée par rapport à la réalité de ce que c'est, puis devrait peut-être, au lieu de crier au loup, devrait être peut-être plus cohérent et plus sensibiliser les gens, parce que soit qu'entre nous, on est capable, on connaît le cyber comme étant une plateforme, mais la plupart des citoyens ne comprennent pas la nature de ce que c'est, puis sans vouloir nécessairement les bourrer pour les préoccupations qui sont pas vraies, ce serait bien intéressant que ça soit cette information soit sensibilisation du citoyen. Ce serait important.
Oui.
Passons à la prochaine nouvelle qui est Apple qui va corriger un problème de protection de vie privée sur sa plateforme, c'est-à-dire que Siri est capable de lire des informations qui sont masquées par différents mécanismes. Donc, une personne qui a accès au iPhone peut invoquer Siri et lui demander de parler des informations qui sont normalement protégées par le téléphone. À l'exception des iMessage et des SMS, toutes les autres alertes peuvent être accédées malgré le fait que le téléphone soit verrouillé. Oui?
Siri demande à un certain moment donné, en fait, si on applique la procédure de configuration, une forme de reconnaissance vocale.
Oui.
Là, es-tu en train de dire que malgré la reconnaissance vocale ou ça serait sur des téléphones où il n'y aurait pas eu la configuration de la reconnaissance vocale? Je le sais, sur mon iPad, je ne l'ai pas faite. Je ne l'ai pas faite parce que ça ne me tente pas pour l'instant. Je n'ai pas envie de l'utiliser, mais des fois, il y a comme un Siri dans la télévision qui se passe, puis le iPad a envie de s'en mêler.
Ouais, mon expérience personnelle, c'est que pour une raison obscure, moi, j'ai fait la configuration sur mon téléphone, et des fois, pour des raisons obscures, mon téléphone, Siri est invoqué pour des raisons obscures parce que le mot-clé n'est pas mentionné ou n'est pas mentionné de façon qu'en tant qu'humain, on comprend comme le dit Siri. Mais le téléphone va s'invoquer, puis dans des réunions, des fois, même d'autres personnes vont parler. D'un coup, mon téléphone va tomber en mode Siri qui est en dehors de tout, tout hors de mon contrôle. Fait que je trouve ça un peu malaisant que Siri puisse être invoqué aussi facilement que ça.
Ben moi, j'ai un mot pour Tim, là. Écoute, je le sais que tu écoutes nos épisodes. S'il vous plaît. S'il vous plaît, veux-tu faire quelque chose? Parce que, un, sachant ceci, là, il va y avoir une explosion d'essais, erreurs. Pour moi, tu vas te faire bombarder, mon cher Tim. Ah, excuse-moi, c'est déjà fait, je crois. Pour moi, tu es déjà en train d'étudier la question pour ton prochain iOS. Là. Moi, ce que je te propose, par contre, c'est un correctif extrêmement rapide. Là. J'espère que tu as un ingénieur ou deux là-dessus. Là.
Ça va probablement se faire. Normalement, le iOS 11.3, qui est normal, soit est en bêta au moment de l'écouter ou va sortir de bêta, est vulnérable. Fait que probablement qu'on va voir une corrective qui va sortir pour 11.3. Mais il y avait eu des cas où il y avait des gens qui avaient automatisé leur maison, puis utilisaient le HomeKit et Siri pour le faire. Et le voisin avait compris et en gueulant assez fort à travers la porte, était capable d'invoquer les commandes de Siri du HomeKit, donc de changer les choses dans l'état de la maison. Et advenant qu'il y avait une serrure qui était contrôlée par le HomeKit, était capable de déverrouiller la porte en criant assez fort pour que le iPad, qui servait de contrôle principal, puisse l'entendre. Fait que c'était un petit peu malaisant.
Ah, nice, j'ai une belle image. Là, faut que je raconte mon anecdote. Tous ceux qui ont à peu près mon âge, là, donc, au-dessus de 40 ans, moins de 50 ans, vous avez tous vu le film Poltergeist, où ils écoutent le match de football avec le voisin qui veut écouter Mr. Dress-Up. Ils ont la même télécommande, puis d'une maison à l'autre, ça change le poste. C'est excellent. Tranche de vie.
Ouais, j'avais vécu des systèmes comme ça avec les télécommandes de Bell Express U qui fonctionnaient en RF au lieu de fonctionner en infrarouge. Donc, si t'avais un voisin qui avait le malheur d'être sur la même fréquence que toi, il changeait tes postes en même temps, puis t'avais l'impression que ton récepteur TV était possédé. La personne que je fréquentais à ce moment-là avait été un peu spooked out par ce phénomène-là. Jusqu'à temps que j'explique qu'on avait probablement un voisin qui était le même genre de choses.
Ça a pris le père Mariste. Ouais. Le prêtre
pour exorciser le...
C'est ça.
Exorciser la belle nice. Le bel express V à ce moment-là. Passons à la nouvelle suivante. Le NIS vient de sortir un guide favorisant la cyber-résilience. Ce guide-là est principalement axé pour les organisations pour les aider à se construire un modèle TI au sens large, un modèle cyber au sens large, pour être capable de résilience par rapport aux APT, les menaces avancées.
Oui, Advanced Persistent Threat.
Oui, ce guide-là est quand même assez volumineux, il est quand même assez imposant. C'est sûr qu'il n'est pas à la portée de tout le monde, il est peut-être à la perception de certains d'un point de vue plus académique. Malgré ça, il y a quand même une bonne base de connaissances d'ailleurs que la plupart des organisations devraient avoir maîtrisé une partie de ça, parce qu'il ne faut pas se cacher que nos business ou les business en général maintenant reposent beaucoup sur le cyber, sur tous les systèmes TI dans lesquels on vit. Fait que si on n'est plus capable d'être résilient et de tolérer un élément
perturbateur
de n'importe quelle nature, que ce soit un stress qui est imposé au système, que ce soit qu'une vulgaire surcharge de commandes qui mette le système à terre à un attaquant sophistiqué qui vienne le jeter, qui vienne briser le système, on est dans une époque où on voudrait minimalement que ce soit résilient, même si le terme est surutilisé et surabondant.
Ben c'est un bon point, Nick, parce que depuis, je vous dirais, 4-5 ans, il y a des... Depuis plusieurs années, il y a des centres de données qui sont apparus. Il y a des multinationales qui ont commencé à consolider leurs salles de serveurs, concentrer justement les salles de serveurs dans certains points, avoir quelques sites de production, quelques sites de relève de plus en plus. Et puis... on commence à voir à plusieurs égards et pour plusieurs compagnies, dont beaucoup de multinationales avec qui on fait affaire en le sachant et des fois même tant qu'on ne le sait pas, avoir des single points of failure à certains endroits. Il s'agit qu'un environnement soit stressé, puis l'effet domino embarque, là, c'est plusieurs services qui sont en mesure de tomber. Et puis on densifie de plus en plus l'OS par Blade, à ce moment-là, et non d'étendre la quantité de serveurs, alors ça devient un petit peu plus problématique quand on doit annoncer des arrêts de service justement pour reprendre. Ça fait beaucoup de systèmes qu'on arrête là pour des fois juste des petits problèmes puis un petit élément dont on aurait dû prévoir.
Entre autres, puis si on se base sur le fait que on est, disons, très dérangé quand des systèmes de grand public deviennent en panne, comme Gmail, Facebook ou Twitter deviennent en panne pendant un temps très court, mais excessivement dérangé. Et à l'intérieur des entreprises, quand on a un système de courrier qui tombe pendant une journée, on n'est pas sur le même niveau de panique. Je pense qu'il y a un degré de réflexion à avoir de ce côté-là, parce que puis des systèmes de mission, puis les systèmes de mission dépendent de plus en plus du cyber, vivent plus en plus dans le cyber, on veut économiser, on veut accélérer, mais ça a un coût, puis c'est pas du développement de sous-sol qui va nous aider dans ce sens-là.
Oui, on pense pas. On pense justement à continuité de service, mais il faut des fois prévoir des arrêts de service, les planifier,
ouais.
Ou faire des simulations. Une simulation justement pour une reprise après panne, par exemple. Mais on se rend compte que les simulations, dans certains cas, quand on pense mal à notre modèle de consolidation, créer une panne pour un service ou un système, des fois, on n'a pas pensé aux autres systèmes satellites. Comme je disais tantôt, on densifie. Fait qu'il faut valider tous les scénarios puis l'ampleur que ça peut prendre.
Ça n'est pas simple, mais si on s'équipe correctement, ça va mieux. Mais il faut quand même faire l'effort minimal qui va autour de ça. Nouvelle suivante, AMD va appliquer un correctif sur ses CPU. Si on revient encore sur Spectre Meltdown qui vient nous hanter de façon continue, puis je pense probablement pour la prochaine année au moins, on va encore en entendre parler. C'est bien de voir qu'il y a des efforts qui sont faits de ce côté-là. On en revient presque tous les épisodes, on parle de ces affaires-là parce qu'il y a des changements, des revirements. Dans les dernières semaines, on a spécifié qu'il y avait d'autres types d'attaques qui étaient rendues disponibles. Là, il y a des correctifs appliqués par AMD. ARM avait appliqué il y a 2 ou 3 semaines. Je pense que Vincent nous avait parlé du fait qu'effectivement ARM avait appliqué des choses. Je pense que ce problème-là va nous mordre les mollets pendant au moins encore une bonne année.
Ouais, le temps qu'ils décident d'ajuster le microcode pour les prochaines livraisons et que ça affecte pas trop les specs justement annoncés des CPU avec un microcode probablement plus robuste mais moins performant. Mais bon, je préfère l'idée d'être moins performant puis de dormir la nuit que d'être très performant puis de me ronger les ongles en dormant.
Ouais, ben c'est ça, là, on est dans un espèce de trade-off entre la performance et la sécurité. Et le fameux trade-off, parce que en général, on s'est beaucoup battu en tant que professionnel de la sécurité qu'on était des individus qui nuisaient à la performance des systèmes. Mais dans ce cas spécifique-là, c'est l'apothéose de la perte de performance parce qu'ils n'ont pas écouté les considérations de sécurité. Là, fait que mais je préfère mieux dormir la nuit que d'être rapide. Fait.
C'est ce que l'ISACA disait hein, pendant les études. On ne peut pas compromettre ni la performance ni la sécurité pour tout autre type de paramètres. Et puis là, ben malheureusement,
ce choix-là a été fait il y a 20 ans, puis maintenant, il finit par nous venir nous mordre les mollets.
Notre professionnel avait raison. Il n'y a pas de compromission entre les performances et la sécurité, ça va de pair. Ouais. Du moment qu'il y en a un qui ne fonctionne pas,
ça va moins bien.
À suivre, c'est cela.
Oui, ben en tout cas, on va sûrement en reparler encore dans les prochaines semaines. Nouvelle suivante, le TLS 1.3 vient d'être rendu disponible. C'est une nouvelle itération du protocole qui chiffre les communications principalement entre le serveur web et notre navigateur. Cette nouvelle itération-là vient de rajouter plusieurs ou vient de retirer des vulnérabilités qui étaient connues dans les anciennes itérations précédentes, dont dans le très vieux maintenant SSL 3 et qui dans TLS 1 maintenant qui était peut-être une version un peu équivalente. Fait que ça permet beaucoup de le forward secrecy, ça permet un certain nombre de retraits de mauvaises choses. Donc c'est un élément très très positif. Pour globalement pour la sécurité de la sphère dans laquelle on vit des communications entre nous. C'est sûr que l'on parle du monde bancaire parce que le monde bancaire était très, très en arrière de cette modification-là pour l'amélioration de la sécurité, mais quand même pour tout le monde en bénéficie de ce genre d'amélioration-là. Nouvelle suivante, le département de la justice américaine revient à la charge pour ajouter des mesures de contournement de la sécurité ou de l'encryption des téléphones cellulaires. C'est un débat qui n'est pas fini. Ouais, là, j'ai Vincent qui est désespéré. Et je le suis tout autant parce que tous ces éléments-là, on a tant qu'à moi, le débat est fini. C'est clair que c'est un mauvais plan. Mais sur toute notre façon d'y accéder ou sur toute façon, ça demeure toujours un mauvais plan parce que si on brise la solidité d'un système, on le brise pas juste pour nous, nos gentils Américains, parce qu'on est Nord-Américains, mais ça permet à tout gouvernement d'accéder à ça, incluant les gouvernements totalitaires. Donc, la clé est valide pour tout le monde, c'est pas...
Le mot que je cherchais, le totalitarisme. On y échappera pas, hein? Les producteurs de films l'avaient prédit il y a à peu près 30 ans. 40 ans même. Puis on est c'est en train de se produire. Puis on est, je voyais le mot weak. Oui, on est un petit peu weak à côté de ça. Là, c'est comme si ça fonctionne. Ça fonctionne. Le régime de terreur pour qu'on accepte justement ce qui nous suggère d'inévitable, qu'il l'est, totalement l'inévitable. En fait, on brise la chaîne qui était. On brise le rythme. Je vais dire le rythme qu'on est en train de suivre. Pour des raisons qui on ne saura jamais. Est-ce que c'est pour des bonnes raisons? Est-ce que c'est l'invention d'un faux problème. Tout le monde veut sa vie privée. OK, ouais. Je vous l'accorde. Depuis les 10 dernières années, avec l'avènement des médias sociaux, on sait, on n'exclut peut-être pas la personne qui parle, mais je nous mets tous dans le même bain. On a un petit peu perdu de vue, justement, notre intimité. Il y a un nouveau sentiment qui est apparu, c'est celui où on propage, désolé de mon terme ici, où on va vomir notre vie privée dans ses moindres détails sur les médias sociaux, mais on veut pas offrir notre nip à notre conjointe. Juste à notre notaire, de façon cryptée, dans l'enveloppe où le testament est inclus. Écoutez, ça marche pas, là. Puis là, c'est le gouvernement qui est en train de pousser ça dans la gorge aux États-Unis. Puis bien entendu, quand les États-Unis emboîtent le pas sur un modèle, le Canada suit, ouais. Ça prend pas beaucoup de temps. Mais bon, moi, j'aime pas le modèle. Le dormeur doit se réveiller.
Oui, très belle référence d'ailleurs, mais... Non, d'avoir une clé master, c'est comme d'accepter que le gouvernement ait une clé master qui peut ouvrir la porte chez nous, qui peut rentrer à tout moment, peut rentrer chez nous pour peu importe la raison, sans nécessairement des contrôles qui sont adéquats. Et quand on vient affaiblir un système, c'est-à-dire que s'il y a un master pour ouvrir la porte chez nous, ben même si le gouvernement est bien intentionné, puis là, je ne questionne pas l'intention qui sont en arrière, mais cette clé-là va se retrouver dans les mains de quelqu'un d'autre, éventuellement, puis va se retrouver dans les mains des voleurs, qui vont finir venir chez nous de façon, vont débarrer la porte sans avoir cassé la porte, puis ça fait. D'avoir un master key va tomber dans les mains de gens mal intentionnés de toute façon. Fait que c'est un problème juste pour ça.
Ben, en fait, ceux qui ont HomeKit avec Siri, le master key est présentement accessible, profitez-en. Ça, c'est ma réflexion. Sinon, ben écoutez, achetez-vous un ours, puis laissez-le en liberté dans la maison.
Avec des griffes de 12 pieds de long. Puisque les ours ont des griffes de 12 pieds de long qui viennent de...
Oui, oui, référence à Nicolas de à peu près 6 ou 7 semaines qui était excellente. Nous autres au Québec, on a des ours de la grosseur d'un bungalow, il n'y a pas de problème, ça a 12 pieds de long, ça a 1 pied de long les griffes.
Ah, c'est extraordinaire, bonne. C'est des monstres. Oui.
Elle était bonne, très bonne.
Ah, ils font en rire plus que d'en pleurer.
Oui.
Avant de donner la nouvelle, Microsoft vient de diffuser un correctif pour ses serveurs où ils vont maintenant, dorénavant, bloquer les sessions RDP des clients qui ne sont pas corrigés. Donc, c'est une première mesure dans oui. Et là, Vincent fait un signe de victoire, et effectivement victoire. C'est une première étape vers le fait d'abandonner des protocoles qui sont inefficaces, qui sont brisés, et forcer les compagnies à adapter leur système et à moderniser leur approche.
Merci, Microsoft. Excellent, excellent. Écoutez, je n'ai qu'une nouvelle cette semaine. La température de la Gaspésie m'a empêché de faire quelques petites recherches. Non, je ne viens pas de la Gaspésie. Je suis allé chercher ma belle-mère. Oui, j'adore ma belle-mère. Son poisson et ses pétanques sont excellents. Je vous ai parlé là, 2 semaines, 3 semaines, justement, d'un vol d'équipement pour miner de la crypto-monnaie à Saint-Augustin-des-Morts. Mais écoutez, avec la médiatisation, ces jeunes-là ont été extrêmement chanceux dans leur malheur, étant donné que ils avaient de l'équipement justement pour miner de la crypto-monnaie, connaissent la technologie, connaissent comment l'exploiter, comment brancher justement. Eux autres, c'est un système de... En fait, sur des racks pour sécher le linge ou un truc comme ça, en acier où les cartes graphiques étaient complètement à l'air libre avec des gros fans, toutes branchées sur les mêmes machines. C'est très artisanal, mais c'était très fonctionnel. Alors, ça a l'air qu'il y a un petit dénouement heureux malgré tout. Et puis, chapeau les gars, moi je suis fier de vous autres. C'est qu'ils se mettent à avoir beaucoup d'appels, justement, de compagnies qui ont envie d'investir dans leur minage de crypto-monnaie. Donc, dans leur malheur, ça leur permet de décanter, souffler un peu. Je connais pas le plan des deux jeunes. J'espère qu'ils vont remettre sur pied justement leur entrepôt de crypto-monnaie. belle petite compagnie ici de Québec qui arrive un malheur, mais bon, j'imagine que la prochaine itération, ils vont avoir des caméras de surveillance, peut-être un ours.
J'aime bien avoir un ours, un ours domestiqué chez soi.
Dans les parages, mais vont probablement mieux protéger les lieux, puis probablement aussi faire beaucoup plus attention à qui divulgue leur entreprise et la location de leur entreprise, l'endroit où elle se trouve. Alors, chapeau les gars, moi je suis avec vous autres. Le petit business?
Oui, ben c'est sûr que c'est tout s'en va vers là. Cela étant dit, c'est sûr qu'ils vont être beaucoup plus prudents à l'avenir parce que tu fais pas promotion aussi clairement que ça. Fait que ça aurait évité le vol initialement. Mais au moins, si ça peut les rattraper plus tard. Puis j'ose imaginer qu'ils sont assurés pour ce vol-là, fait qu'ils n'ont pas subi des pertes économiques très graves. C'est plus les compagnies d'assurance qui ont dû absorber les conséquences malheureuses de cet élément-là. Mais il y a pas, les voleurs n'ont pas été interceptés, rien.
Oui.
Oui, c'est les voleurs qui ont été interceptés, pas les...
En fait, ce qu'on sait, c'est que ceux qui étaient dans le cube avec les équipements,
okay,
eux autres ont été interceptés. Ah. Bon, malheureusement, l'équipement qui n'a pas pu être volé, bon, je sais pas quel film ils ont écouté, mais bon, l'eau de Javel, faut croire que c'était... Je sais pas si c'était l'arme de destruction massive, mais bon, l'équipement qui a pas pu être débranché. Parce qu'ici, on parle de 600 cartes graphiques spécialisées. Les cartes qui ont pas pu être débranchées pour être volées ont été aspergées, justement, d'eau de Javel. Mais bon, au moins, le camion a été récupéré. Puis, comme la nouvelle le dit, c'était probablement une commande. Donc, il s'agit qu'une personne savait que les deux frères avaient ce type d'exploitation-là dans l'entrepôt. Quelqu'un qui s'est échappé, bon, peu importe, rendu là, là, c'est une crapule, justement, qui a eu une bonne, mauvaise idée, puis ça s'est retourné contre lui. Sur la suite de ça, je ne sais pas ce qui est arrivé aux deux autres. Je pense qu'il était trois dans le cube, mais cinq au total. Mais tout le monde se porte bien, puis eux autres, il semble qu'il y a des investisseurs qui sont très, très intéressés à leur projet. Alors, probablement qu'ils vont se trouver un vrai local avec un vrai centre de données, une forme de protection physique qui va être plus qu'adéquate.
Ça leur donne une belle, une belle publicité à travers tout ça.
Tout à fait. Et on enchérit sur cette publicité-là, parce qu'il mérite.
En plus, c'est pas merveilleux. Fait qu'on conclut l'épisode d'aujourd'hui.
Oui.
Oui, c'est la fin.
C'est la fin. Nicolas me regarde. Faut que j'arrive avec une conclusion. Mais écoutez, Oui, on est avec vous autres la semaine prochaine.
Oui.
Qu'est-ce que j'ai de le fun? Ben, écoutez, le beau temps s'en vient, hein? Désespérez pas. J'arrive de la Gaspésie. Je peux vous dire qu'on peut se compter chanceux d'être à Québec, même si le vent a rabaissé température en fin de semaine. J'ai fait un voyage de retour où j'ai connu à peu près tous les intempéries qu'un Québec peut connaître. Seules tornades, tremblements de terre et inondations n'ont pas agrémenté mon voyage, heureusement. Mais les autres ingrédients environnementaux, oui. La brume, la pluie, la grêle, les vents. Mon char flottait. Il était déporté à gauche, à droite. Saint-Jean-Port-Joli, c'était assez tough. Faites attention quand vous passez par là.
Over and out.